La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre frère et notre sauveur. Chers amis, soyez les bienvenus dans ce temps de culte à l'oratoire du Louvre, que vous soyez ici au temple ou bien loin derrière votre écran. Vous êtes toutes et tous en communion maintenant pour ce culte dominical. Nous sommes tous ensemble. Et je vous invite à prier pour entrer dans cette communion fraternelle à laquelle nous sommes invités. Éternel, rassemble-nous, tels que nous sommes, avec tous nos manques, avec tout ce qui nous constitue, avec tout ce que nous ne connaissons pas de nous-mêmes et que tu connais mieux toi seul. Rassemble-nous et fais que nous soyons les uns pour les autres de véritables frères et sœurs, non pas dans une concurrence ou une jalousie qui arrive parfois entre les frères et sœurs, mais dans un amour mutuel qui ne peut disparaître. Éternel, permets que nous soyons ensemble ce matin à l'écoute de ta parole. Amen. Et je vous invite à nous réunir dans le chant avec le premier répond qui se trouve dans la liturgie qui est placée au début des psautiers français. Et nous nous levons. Nous louons le Seigneur avec le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur des prés d'herbes fraîches. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la fidélité m'accompagnent chaque jour et je reviendrai à la maison de mon Père pour la longueur des jours. Chantons notre louange avec le psaume 107, les strophes 1, 2, 3 et 4. Psaume 107. vous invite à vous asseoir. Dans l'Épître aux Galates, il est écrit « Vous avez été appelés à la liberté ». Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que ces paroles nous guident et nous accompagnent. Nous nous remettons sous le regard et la tendresse de Dieu avec cette prière de Dietrich Bonhoeffer. Seigneur, les hommes vont à toi dans leur misère et demandent du secours, du bonheur et du pain. Tous font ainsi, païens et chrétiens. Seigneur, les hommes vont à toi dans ta faiblesse, te trouvent pauvre et méprisé, méconnu et trahi. Et c'est ainsi que tu vas vers leur détresse. Seigneur, prends-moi par la main que je puisse moi aussi aller comme toi, avec toi, vers mes frères. Amen. L'Éternel Dieu vit en nous. Nous devons en être convaincus. Alors que son esprit nous anime, sa force transforme notre faiblesse, sa miséricorde nous relève de nos misères, sa vérité confond tous nos mensonges, sa liberté ouvre nos différentes prisons. C'est pourquoi le dernier mot à notre sujet ne sera pas le nôtre, mais le sien, celui de son pardon et de son amour. Il nous redit ce matin, « Ma grâce te suffit ». Ce matin, je partage avec vous une confession de foi d'une église en Hollande qui est venue nous visiter il y a peu et qui s'inscrit dans une théologie très voisine de la nôtre, l'église des remontrants. Voilà ce que nous pensons et croyons Notre paix ne réside pas dans la certitude de nos formulations, mais dans l'émerveillement devant ce qui nous arrive et nous est donné. Notre destinée ne réside pas dans l'indifférence et l'avidité, mais dans la vigilance et la solidarité à l'égard de tout ce qui vit. L'accomplissement de notre existence ne vient pas de ce que nous sommes et de ce que nous possédons, mais de ce qui dépasse infiniment nos capacités de compréhension. Conduits par ces convictions, nous croyons en l'Esprit de Dieu. Il surmonte ce qui divise les gens. Il les attire vers ce qui est saint et bon, pour qu'ils louent et servent Dieu en chantant et en faisant silence, en priant et en agissant. Nous croyons en Jésus, un homme empli de l'Esprit. Il est le visage de Dieu qui nous regarde et nous remue. Il a aimé les êtres humains et il a été crucifié. Mais il vit, au-delà de sa propre mort et de notre mort. Il est, pour nous, un exemple béni de sagesse et de courage. Il rapproche de nous l'amour éternel de Dieu. Nous croyons en Dieu, l'Éternel. Il est amour insondable, le fondement de notre existence. Il nous montre le chemin de la liberté et de la justice. Il nous appelle à un avenir de paix. Bien que faibles et vulnérables, nous nous croyons appelés solidairement avec le Christ et avec tous ceux qui croient à former une Église qui soit signe d'espérance. Car nous croyons dans l'avenir de Dieu et du monde. La patience divine nous offre du temps pour vivre, pour mourir et pour ressusciter dans le royaume qui est et qui vient. Dieu y sera pour l'éternité, tout en tous. À Dieu soit la louange et l'honneur dans le temps et l'éternité. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. La semaine dernière, nous nous attelions à la tâche de faire la critique de notre foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, jour où nous allons partager la scène, un symbole très fort pour signifier la présence de l'Église visible, mais qui évidemment ne résume pas tous les aspects de l'Église, il m'a semblé à propos de proposer une critique de l'idée d'Église. Selon le libéralisme, un libéralisme conçu donc comme une méthode plutôt que comme une doctrine, vous l'aurez compris. Et j'ai choisi dans l'évangile de Marc au chapitre 6 les versets 30 à 40. Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car beaucoup venaient et repartaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart, dans un lieu désert. Beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. de toutes les villes, à pied. On a couru et on les devança. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule. Il en fut ému parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner quantité de choses. Comme l'heure était déjà tardive, ses disciples vinrent lui dire « Ce lieu est désert et l'heure est déjà tardive, renvoie-les pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans des hameaux et des villages des environs. » Mais il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent « Irons-nous acheter 200 deniers de pain pour leur donner à manger ?» Il leur demande « Combien de pain avez-vous ? Allez voir. » Après s'être informés, ils répondent « 5 pains et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les installer tous en groupe sur l'herbe verte et ils s'installèrent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et se mit à les donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta 12 paniers de morceaux de pain et de poisson. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5 000 hommes. Voilà, je vous invite à chanter ensemble le psaume 33, les strophes 1, 3 et 5, et nous nous levons. Je vous invite à la prière. Éternel, éclaire-nous au moment où nous lisons les témoignages de ceux qui nous ont précédés. Permets que dans la foi, nous les rejoignions à ton écoute et que nous soyons nous aussi saisis par ton amour éternel. Amen. Qu'entend-on au juste par Église ? Poser la question, c'est déjà entrer en conflit avec les religions d'autorité, comme les appelle le théologien Auguste Sabatier. En effet, toutes les orthodoxies chrétiennes partent du principe que l'Église a été fondée par Jésus-Christ, qu'il en est le chef et que c'est en lui qu'on en trouve l'origine. De ce postulat découle un mystère de l'Église qui fait souvent autorité. Et du coup, toutes les actions humaines qui découlent de ce mystère sont vues comme paroles d'autorité et gestes d'autorité. Mais quand même, il s'ensuit un dilemme pour le croyant. S'il veut être fidèle à Jésus et que l'Église est instituée par lui, alors il devra accepter le magistère de l'Église, il devra accepter son organisation, ses lois, ses doctrines, même quand tout cela semblera complètement contradictoire avec le message qu'il a cru recevoir de Jésus-Christ lui-même dans la foi. Il y a donc là un conflit entre la foi intérieure et le discours doctrinal extérieur qu'on peut recevoir dans l'Église. C'est de ce dilemme que le protestantisme nous invite à sortir, toujours, en retournant complètement cette compréhension de l'Église. Le récit de la première multiplication des pains dans l'évangile de Marc, en fait il y en a deux, me semble très éclairante sur les questions de fidélité et d'organisation d'une communauté à l'écoute de Jésus-Christ. Il est question d'abord des apôtres qui vont et viennent et sont manifestement surmenés, car ils n'ont même plus le temps de manger. Et c'est ça l'indice qui fait qu'on les trouve un peu trop surmenés. On remarquera combien d'ailleurs la nourriture est centrale tout au long du récit. Jésus les dissuade de ce modèle du surmenage qui tend à donner plus que ce qu'on prend le temps de recevoir. Et leur dit « Venez à l'écart et reposez-vous ». Mais il ne leur dit pas de se mettre n'importe où à l'écart, il les emmène dans un lieu désert. Un désert d'ailleurs rempli de symboles pour qui veut bien les voir. Le désert est le lieu de ce qu'on appelle la tentation traditionnellement. Ici, il me semble plutôt pour les apôtres être une sorte de lieu d'initiation pour leur service. Le désert est aussi le lieu du manque et paradoxalement aussi de la libération. Si l'on se réfère à la traversée du peuple libéré par Dieu, on sait qu'il manquera sans cesse de nourriture et vivra physiquement la peur de manquer et de mourir, tout en étant pourtant sur le chemin de la libération. C'est donc là que les apôtres vont se mettre à l'écart avec Jésus. Et comme si le symbole du désert ne suffisait pas, Ils y vont en barque, lieu d'instabilité, mais aussi seul véhicule capable de voguer sur des flots qui évoquent, dans cette antiquité, les mystères et les puissances mauvaises. C'est aussi, de façon plus triviale pour les apôtres, le bateau de ceux qui vont à la pêche, celle qui fait d'eux des pêcheurs d'hommes. Et bien sûr, la barque deviendra le symbole de l'Église. Nouvelle traversée de la mer Rouge, voyage qui nous transporte dans un lieu hors du temps, à part, sans nom et sans position géographique claire. On ne sait pas où ils sont. La poétique du récit, comme je l'appelle, commence avec ce voyage. Un peuple tout entier va découvrir sa libération, il va découvrir son repos, sa paix, avec un événement inattendu. Le déplacement des apôtres sera celui de tout un peuple, de toute une communauté, et ils ne s'y attendent pas. Cette communauté est arrivée dans ce lieu désert, et chacun découvrira de quel peuple il fait partie et ce qui lie chacun à l'autre. Car voilà que de toutes les villes accourent des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont reconnu les apôtres. De leur enseignement, de leur guérison, ils n'ont pas eu assez apparemment pour ceux qui les connaissent déjà, ou bien ils en ont entendu parler et veulent eux aussi être au bénéfice de ce que les apôtres font. C'est à ce point de ce récit que se dessine l'Église. Cette assemblée hétéroclite où chacun cherche une parole, une guérison, un geste pour soi. C'est l'Église. On est loin de la vision de l'Église comme lieu dans lequel on adhère à une doctrine ici. Ici, c'est une émotion, celle de la pitié, de la compassion, de la miséricorde qui va assembler tous ces gens si différents. Ce qui va faire la rencontre entre cette foule et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ va être pris de compassion pour tous ces gens. Il est, dit le texte, en grec, littéralement « ému aux entrailles ». Le terme qui apparaît ici est celui qui sert aussi à parler de Dieu lui-même dans l'évangile de Luc. Quand dans le premier chapitre, on énonce le sommaire du salut en disant « Dieu a eu compassion de son peuple ». Littéralement, il a été pris aux tripes par son peuple. Dieu a donc un ventre, des entrailles, qui se noue d'émotions pour les humains. Jésus est pris aux entrailles en voyant tous ces gens qui accourent, et l'évangéliste de commenter, parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Ils sont comme des bêtes perdues, égarées, qui cherchent un secours. Ce qui est au cœur de la rencontre, ce qui assemble cette foule autour de Jésus et de ses apôtres, c'est une émotion vive qui lie presque physiquement Jésus et ces personnes qui apportent leur manque dans un lieu déjà désert. Ce n'est donc pas Jésus qui crée cette communauté comme chef de l'Église. Ce ne sont pas les apôtres qui rassemblent tous ces gens et les font venir ici. C'est dans la plus grande anarchie que se forme cette assemblée. Ils courent tous de partout. Et pourtant, un point les rassemble, celui où un homme les voit et éprouve de la compassion pour eux. Auguste Sabatier, le théologien, écrit « Lorsqu'on prête à Jésus la notion catholique de l'Église, ou simplement l'intention de fonder quelque chose d'analogue, on tombe dans le plus naïf des anachronismes. Non seulement il n'a pas voulu cette Église, mais il ne pouvait même pas la prévoir, pour la bonne raison qu'il croyait venir au dernier jour du monde et que tout ce développement historique du christianisme restait en dehors de son horizon de Messie. Ici, Sabatier replace dans une perspective eschatologique de la fin des temps le ministère de Jésus. Et quand il parle de compréhension catholique de l'Église, il parle de la catholicité de l'Église qui fait remonter son origine aux apôtres et au Christ sans rupture, comme s'il y avait une intention chez le Christ de la créer. Mais il ne s'agit pas ici d'une institution voulue par Jésus, ni de délégation confiée aux apôtres. Il s'agit ici d'élan et de miséricorde. Et ce n'est pas un hasard si Auguste Sabatier place ses réflexions sur l'Église dans la partie de son livre intitulée « La religion de l'amour ». Il s'agit bien ici d'aimer ces gens. Ce qui va faire ici Église, Assemblée, Ecclésia, c'est le manque, la recherche, la faim et l'amour. Parce que très vite, tous ces gens ont faim, et si l'on est ému aux entrailles pour eux, on ne peut pas les laisser le ventre vide. Les apôtres, eux, les envoyés du Christ qui allaient porter la bonne nouvelle, même à ceux qui n'en éprouvaient aucun besoin, sont mis à l'épreuve d'une foule qui va bientôt manquer de pain pour avoir voulu sa libération. Et là, on voit le décalage entre la conception traditionnelle que les apôtres ont en tête et ce que propose Jésus. D'abord très professionnel, les apôtres prévoient le moment où tout ce petit monde va vouloir manger. La nuit tombée, bien sûr. Et ils proposent qu'on les renvoie pour qu'ils se débrouillent et achètent leur pain dans les bourgades voisines eux-mêmes. C'est en effet le plus simple, à première vue. Mais Jésus ne voit pas les choses de cette façon. Donnez-leur vous-même à manger. Ce chacun pour soi ne lui sied pas. Dans cette phrase « Donnez-leur vous-même à manger », il y a plus qu'un défi lancé aux apôtres. Il y a une foi immense dans ces envoyés qui sont rejoints là où ils ne se connaissent pas encore, où ils n'ont pas assez confiance en eux pour croire que c'est possible. En eux-mêmes, dans leur foi à eux, ils sont rejoints par cette immense foule. Seront-ils capables de cette audace de prétendre pouvoir nourrir 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? Jésus, lui, en est persuadé. Il faut juste que les apôtres cessent de penser que c'est de l'extérieur que cette foule que peut venir la solution. C'est en elle que se trouve la nourriture qui pourra nourrir chacun. Ils seront rassasiés et on en aura de reste dans 12 corbeilles. Ce récit de la multiplication des pains nous présente la communauté autrement ici. Ici, la communauté n'est pas l'assemblage des gens semblables qui se mettent tous ensemble sur ce qu'ils savent. Ici, l'assemblée est une conséquence du manque et de la foi. Tous vont à Dieu dans leur misère, disait Bonnefère dans sa prière. La foi de l'Église, c'est donc la foi de chacun qui arrive quelque part avec son manque. Une foi inévitablement plurielle, mais qui, quand elle est reconnue en chacun, fait des merveilles et devient la foi pour tous. André Gounel écrivait « La foi personnelle se doit d'être hérétique, responsable, réfléchie et tolérante. » Hérétique vient du mot « choix » en grec. L'hérétique est un homme qui choisit ses propres croyances et opinions. Il ne se les laisse pas imposer par qui que ce soit. « Mon rêve, » continue André Gounel, serait qu'il n'y ait dans le christianisme que des hérétiques et des hérésies. En effet, il n'est pas question ici de doctrine. Il est question de gens qui, par choix, viennent voir les apôtres et Jésus, parce qu'ils sentent que dans leur manque, ils ont rencontré quelque chose d'essentiel pour eux. Les 5 pains et les 2 poissons viennent de cette foule hérétique qui a fait le choix de courir après un enseignement et un berger qu'elle a choisi. Mais me direz-vous, les 5 pains sont comme les 5 livres du Pentateuque reçus en héritage par cette foule des enfants d'Israël. Ils ne sont donc pas si hérétiques que cela. Et pourtant, en choisissant Jésus et les apôtres et ce mode d'assemblée, ils le sont devenus à leur insu. Il y aura une deuxième multiplication des pains pour les non-juifs au chapitre 8. Et là, les pains seront au nombre de 7, symbole des 7 territoires païens où le ministère de Jésus le mènera. Des symboles adaptés aux situations et non pas une demande des gens de s'adapter à la doctrine. Ce qui compte ici, ce n'est donc pas l'origine de ceux qui s'assemblent. Si l'on est né juif ou si l'on arrive d'une autre communauté, ce qui compte, c'est l'élan vers la liberté que promet Jésus. Dans la foule, on trouve aussi 2 poissons, peut-être symbolisant cette ère nouvelle dans laquelle on ne naît pas membre du peuple de Dieu, mais on le devient. Pêché comme un poisson par des pêcheurs d'hommes, dans une sorte de deuxième naissance. Jésus, en bon berger, fait reposer cette foule sur le pré d'herbe verte. Vous l'aurez remarqué, c'est une véritable citation du psaume 23 que fait l'évangéliste en plaçant l'herbe verte là où il a parlé de désert. En traversant la vallée de l'ombre de la mort, tous ces gens venus de partout n'auront plus jamais peur, parce qu'ils ont trouvé un berger. Jésus n'est pas un berger au sens de prédicateur qui a emprise sur eux, mais un berger qui croit en eux et prend soin de chacun. La multiplication des pains aurait pu être remplacée par un autre texte ce matin. J'aurais pu prendre le dernier repas du Christ comme image de l'Église. Et pourtant, cette foule qui arrive de partout me semble plus parlante. Albert Schweitzer pensait que la multiplication des pains était la préfiguration de la scène. C'est pour moi une certitude. Dans le dernier repas du Christ, il s'agit de la mort annoncée de Jésus, bien sûr. Mais dans la multiplication des pains, il ne s'agit pas de la mort de Jésus, mais de la mort de toute cette foule qui cherche l'éternité, l'infini et l'amour de Dieu. Tous sont mortels, comme vous, comme moi, comme nous tous. Ultimement, tous viennent à Jésus pour la même raison, même s'ils n'en ont pas tout à fait conscience. Ils mourront tous un jour et le sens de leur vie est remis en question constamment par cet horizon. C'est leur fragilité qui les amène. Auguste Sabatier parle ici de l'Église. Même si chacun vient avec ce qu'il est, l'Église, même quand elle est sans magistère, comme la nôtre, n'est pas une collection précaire d'individus dont le consentement serait toujours nécessaire pour la maintenir. L'Église est une famille spirituelle dans laquelle tous doivent se reconnaître encore frères alors même que nous serions parfois séparés. L'essentiel dans l'Église n'est donc pas son organisation, mais l'esprit qui anime ses membres et leur conscience de ne pas s'appartenir à eux-mêmes ni de détenir la réalité de l'Église, mais d'appartenir à Dieu. Dans cette multiplication des pains, Jésus a fait découvrir à ses apôtres et à tous ceux qui étaient là la bonne volonté mutuelle, comme l'appelle Sabatier. Ils n'ont usé d'aucune hiérarchie que de la hiérarchie renversée, de l'humilité la plus grande et de l'amour le plus oublieux de soi et le plus dévoué des autres. Et c'est ainsi qu'avec 5 pains et 2 poissons, on a pu nourrir tout le monde. On est loin de la conception de l'Église trop souvent admise par les protestants aussi, où chacun est protestant tout seul, chrétien tout seul, libéral tout seul. Ici, les autres apprennent à chacun la bonne volonté, l'amour mutuel et le soin qu'il faut de sa fragilité. Et c'est là qu'est la véritable communauté. Quand nous partagerons la scène tout à l'heure, souvenons-nous de ce pain qui nous manque à tous. Regardons nos frères et nos sœurs en nous disant qu'ils sont venus avec leur manque, comme nous sommes venus avec le nôtre. Nous pouvons partager ensemble ce pain et ce vin par notre seule bonne volonté. Et si nous communions ainsi, alors nous serons véritablement Église. Pas notre Église, comme si elle nous appartenait et qu'elle était la meilleure de toutes. Pas une Église différente et forcément mieux que les autres, faite par notre bon vouloir. Mais l'Église, en esprit et en vérité, celle qui se recrée sans cesse par la foi de chacun et l'amour du seul Dieu qui suscite son Église. Alors, nous qui sommes accourus, affamés d'une parole de salut, nous serons rassasiés. Même un libéral ne fait pas église tout seul. Il lui faut des frères et des sœurs à aimer et qui lui apprennent à aimer. Amen. Je vous invite à chanter ensemble 250, les strophes 1, 2 et 3, dans le louange et prière. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons partager quelques annonces avec Aurore qui nous partage ses annonces. Merci Aurore.
Merci Béatrice. Bonjour à tous, ici présents et en ligne, puisque vous êtes très très nombreux à faire église dans votre lit avec nous. Et ça fait plaisir de voir que le direct que nous avons lancé il y a maintenant un an permet à beaucoup d'entre vous, quand vous n'êtes pas là physiquement, de pouvoir nous suivre et partager avec nous. Merci pour cette quadrilogie, deuxième volet aujourd'hui, dimanche prochain sur la foi. Donc la foi fait son autocritique sur la foi.
Voilà. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est que croire ? C'est pas si évident que ça.
Donc ça c'est dimanche prochain avec un verre de l'amitié qui suit. Dimanche prochain, c'est aussi l'offrande pour l'entraide. Gilles Devaux sera là pour faire les annonces et vous donner des nouvelles de l'entraide. Le dimanche suivant, c'est encore toi, quatrième volet, sur les Écritures.
Les Écritures et la question des symboles du christianisme.
Et non pas à partir de Marc, mais à partir de Luc. Puis, je les connais bien. Lundi 15 août, jour de la Sainte Marie, vous pouvez vous en souvenir, Agnès revient.
C'est l'Assomption.
Donc, le 15 août, Agnès revient, tu repars en vacances, vous vous retrouvez le 21 août, donc Agnès est là, vers de l'amitié également, avec un nouveau Sainte-Seine. Et le 14 août, vers de l'amitié. Voilà. Enfin, vous lisez les newsletters. Le 28 août, vous êtes toutes les deux de retour. Le 28 août, c'est le culte de la Saint-Barthélemy. Vous savez que l'Assemblée du désert est aussi dédiée à la Saint-Barthélemy, aux 450 ans de la Saint-Barthélemy cette année. Et vous avez remarqué, c'est commémorer la Saint-Barthélemy, point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation. Ce n'est pas si évident. Le 28 août, nous ferons le dépôt de gerbes comme d'habitude. Et nous avons aussi invité Olivier Millet, historien. Vous savez que nous avons un monument Coligny. Ce n'est pas la statue, c'est un monument Coligny qui est dans le jardin dit de Coligny. Nous déposerons une gerbe, avec des officiels d'ailleurs de la ville de Paris. Mais juste après, Olivier Millet viendra nous parler de ce monument. Et notamment pour savoir si ce monument avait pour objectif de commémorer la Saint-Barthélemy. Et Olivier Millet, lors de l'Assemblée du désert, continuera sur le sujet de la commémoration de la Saint-Barthélemy avec un point d'interrogation. Donc soyez nombreux le 28 août, et si vous avez l'intention de venir à l'Assemblée du désert les 3 et 4 septembre, prévenez Irène Carbonnier ou la pasteur Béatrice Cléromazière qui seront là-bas, qui ont prévu également un programme. Le mail d'inscription pour vous signaler est désert2022@oratoireduLouvre.fr. Donc c'est facile de s'en souvenir, désert2022@oratoireduLouvre.fr. Donc je viens de parler de désert, de nourriture, nous sommes tous en manque, tu nous l'as bien expliqué, et nous nous sommes dit aussi que nous étions en manque de lecture. Alors la librairie vient de refaire le plein, mais vraiment de refaire le plein. Donc je vous en prie, partez en vacances ou revenez venir prendre quelques livres. Nous avons mis de nouveaux auteurs en supplément des fondamentaux du protestantisme libéral, parce que c'est vraiment l'objet de ce stand librairie, c'est de vous faire découvrir le protestantisme libéral. Et nous avons mis plusieurs auteurs, dont certains sont en relation directe avec ta prédication et ta quadrilogie.
Oui, alors vous allez retrouver beaucoup de livres qui vont vous aider, par exemple, à établir une lecture des textes bibliques un peu éclairés et historico-critiques, comme notre tradition le fait d'habitude. Et puis vous avez des auteurs comme Bernard Raymond, dont je me suis servi beaucoup aujourd'hui, qui nous éclaire sur la question du libéralisme, et donc d'autres auteurs encore, et même du post-libéralisme avec Lindbeck, qui est un auteur dont je travaillerai les écrits plus tard. Voilà. C'est au programme.
Et aussi, en termes de réflexion, vous avez la dernière feuille rose, hein, notamment l'article de Béatrice sur le sujet de pas l'Église qui croit, mais l'Église qui croit. C'est pas facile à dire. Hein. Il faut être bon en orthographe. Donc, vraiment, prenez de la lecture. Je vous souhaite à tous un excellent été où que vous soyez. Et puis pensez toujours à cliquer, s'il vous plaît, sur les dons joyeux si vous êtes en ligne. Et puis ceux qui êtes là, ben, vous savez que nous donnons dans la joie. Merci à tous et bon dimanche.
Je voulais rajouter juste une chose sans être trop longue, simplement dire que, en conséquence de tout ce qui a été dit aujourd'hui sur l'Église, chacun est le bienvenu à la scène. Je crois qu'il faut toujours le rappeler parce qu'on se met parfois des barrières pour venir partager ce moment. Personne ne vous demandera où vous en êtes de votre foi. Personne ne vous demandera si vous êtes protestant. Vous êtes tous invités parce que c'est le Christ lui-même qui nous invite à son repas. Et donc que personne ne s'empêche de vivre la communion avec tous ceux qui sont ici. Merci. Nous louons Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Et nous prenons le répond au début des psautiers. Je vous invite à vous lever. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés ». Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous prions ensemble. Père, invité à cette sainte scène, à ton repas, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Et dans la confiance, nous te présentons notre monde. Nous te prions pour tous ceux que tu nous mets en mémoire, tous ceux qui vivent actuellement des deuils, tous ceux qui pleurent, ceux qui sont partis. Nous te prions aussi pour tous ceux qui traversent l'épreuve de la maladie, l'épreuve de l'imminence de la mort. Nous pensons aujourd'hui à la famille de Francine, à tous ses proches, et nous prions pour elle. Nous te demandons, Seigneur, d'être auprès de nous pour nous guider et nous montrer comment nous devons être auprès de tous ceux que tu places sur notre chemin, pour faire communauté avec eux, communauté aimante, où chacun prend soin de l'autre. Nous te prions pour tous ceux qui ne trouvent pas de famille spirituelle, qui puissent les accueillir tels qu'ils sont, avec leur foi, avec leurs doutes, avec leur vie toujours singulière, toujours différente. Permets, Seigneur, que nous soyons de ceux qui ouvrent grand les portes et qui abandonnent tout jugement sur ceux que tu places dans nos communautés. Rappelle-nous que nous ne sommes pas dans notre Église, mais dans la tienne. Rappelle-nous que notre théologie doit toujours faire place d'abord à ton amour. Rappelle-nous que c'est dans nos entrailles que nous devons ressentir ce lien que tu tisses entre nous. Aide-nous, Seigneur, à être des témoins fidèles de ton amour, que nous puissions être la part visible de cette Église invisible, composée de tous ceux qui arrivent avec d'abord ce qui leur manque. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui ont de la peine à faire Église parce qu'ils sont dans des lieux qui ne le permettent pas. Permets que, par ton Esprit Saint, ils soient assemblés à nos prières. Nous pensons à tous ceux qui sont empêchés par des faits de maladie, tous ceux qui sont enfermés en prison et qui font Église grâce aux aumôniers, mais qui parfois manquent cruellement de présence auprès d'eux. Nous te prions pour tous ceux qui sont loin de leur pays et qui ne peuvent plus prier dans leur langue avec d'autres. Permets que nous puissions imaginer l'Église pour le monde entier, avec nos moyens, notre créativité et notre souci des autres. Et ensemble, dans la confiance, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car toi seul, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Thank you. Frères et sœurs, nous avons communié ensemble. Nous avons pris ensemble le pain et le vin que le Christ avait trouvé en nous-mêmes pour nous. Que ce pain et ce vin soient votre nourriture pour votre vie quotidienne, pour le partage que vous en ferez avec tous ceux qui ont eux aussi faim et soif d'une parole de libération. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce vous bénit et vous garde.